Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Suspect de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas ».
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Chers auditeurs, bonjour. En écho à l'actualité cinématographique de la fin d'année, Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé, Amour de Michael Haneke, nous avons choisi d'aborder le thème pudiquement nommé euthanasie, autodélivrance ou suicide assisté. Sur deux semaines consécutives, nous vous proposons deux romans actuels, dont les personnages viennent contredire la parole de l'évangéliste Matthieu. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, car leurs proches vont décider de leur jour et heure.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends?
Aujourd'hui, nous allons vous lire des extraits de « Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure » de Pierre Béguin. Depuis 3 semaines, je connais le jour et l'heure. Depuis 3 semaines, je sais ce qu'aucun être humain ne devrait savoir. Ce sera le 28 avril à 14h. Ainsi en ont-ils décidé. Leur décision fut prise par étapes douloureuses, mais la funeste échéance me fut annoncée avec le détachement qui convient à un banal rendez-vous donné au détour d'une conversation. À mes yeux, ils auraient dû endurer passivement, à mi-chemin entre la misère qui détruit et le luxe qui aliène, la destinée obscure et rigoureuse qu'ils se sont faite, s'éteindre silencieusement comme deux lampes qui manquent d'air au bout d'une vie de courage et de patience, et s'en aller sans déranger personne, ensevelis dans un linceul d'humilité, avec l'héroïsme muet des petites gens. Je les croyais résignés à subir l'impitoyable loi de vae victis, que l'existence réserve à ceux qui en ont fait le tour. Cette révolte ultime contre le sort est sûrement la seule qu'ils se sont permise au terme d'une trajectoire d'acceptation, de conformisme et de frustration consentie. Tout s'est précipité avec la chute de mon père dans l'escalier, en décembre dernier. Puis, ma mère a chuté à son tour en sortant du lit. Et mon père encore. Et tout à coup, la vie est devenue sa négation. Non point la mort qui en est la conclusion, mais un état insensé de douleur et de tourment, l'effigeant, inutile, privé de rôle, dans cet insipide relâche qui ne s'ouvre sur aucun espoir d'avenir. Alors que je les surveillais, tous les deux couchés, vidés, exténués, muré dans un silence trop lourd pour mes timides tentatives de dialogue, mon père, les yeux toujours fixés dans le vide, sur le ton le plus anodin, a enclenché les affres du compte à rebours. Si tu es d'accord, on va partir. Il nous reste le suicide. On s'est inscrit à Exit.
Cette annonce m'a tiré de ma léthargie, comme dans une sorte de rêve qui vire à l'horreur. Curieusement, je n'ai d'abord ressenti que de la colère. Même s'il m'a glacé le sang, même s'il paraissait déplacé dans la bouche de mon père, ce n'est pas le mot suicide qui m'a fait réagir, mais le fait qu'il souhaitait mon accord. Jamais auparavant il n'avait sollicité mon opinion pour une quelconque décision, surtout celle qui engageait la famille. Avait-il le droit de m'investir d'une telle connaissance, de me faire entrer dans un territoire interdit aux hommes, moi qui n'avais rien demandé ? Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Sagesse impérieuse qui trace les limites de la condition humaine, le début du domaine des dieux. Quel prix à payer pour cette transgression ? Que j'adopte ou je réfute le principe de leur ultime revendication de liberté, je suis condamnée à l'indignité filiale. Je n'aime pas mes parents. Pas assez. Pas comme je le devrais. Qu'aurait dû être ma réaction si je les aimais vraiment ? Prier ? Hurler ? Me révolter ?
Ce fils va devoir se résoudre à accepter l'inacceptable.
Maintenant que l'échéance est imminente, qu'il ne leur reste plus qu'une quinzaine d'heures à vivre, maintenant que seul dans mon ancienne chambre d'enfant j'accompagne leur dernière nuit, je me sens travaillée de remords pour mes reproches, mes irritations, mes duretés, pour toutes ces cruelles et stupides manifestations de colère par lesquelles, pour me justifier, je croyais les relever de leur atonie, leur redonner de la volonté. Ah, quel imbécile j'ai été ! Contrairement à tous ceux qui s'adressent les mêmes reproches en pareilles circonstances, moi je n'ai pas l'excuse de l'ignorance, je sais. Je me souviens d'autant mieux d'un aveu de mon père. J'ai toujours regretté d'avoir été si dure avec ma mère durant ces derniers mois. Je n'avais pas compris. Moi non plus. Pas davantage que je n'ai saisi sur le moment le sens de ces mots qui résonnent en moi, ce soir, comme un reproche masqué. Si j'avais su, je me serais efforcée d'adoucir simplement leur fin de vie, je me serais appliquée à en faire ce qu'aurait dû faire l'imagination d'une affection bien sentie. Si j'avais su. Mais... justement, je savais. Là se concentre la cruauté infligée à celui qui, contre nature, connaît le jour et l'heure. Pas d'échappatoire. Le fils est au pied du mur, et cette dernière nuit, sans sommeil, comment pourrait-il en être autrement, il va consacrer à ses parents une nuit d'écriture pendant qu'eux vont passer leur dernière nuit, chacun dans une chambre, séparée.
Que sait-on de ses parents ? Que sais-je des miens ? Pour moi, ils n'ont pas d'histoire. Ils ont toujours été présents à mes côtés quand je le désirais, comme une sorte d'évidence qui s'impose sans que j'aie à la questionner, ni même à m'en préoccuper. Au point que quelques heures avant leur mort, je ne parviens toujours pas à me représenter leur disparition, ni à en intérioriser la douleur. On ne s'est jamais parlé. On n'essayait pas de se connaître, de mieux se comprendre. Le respect et l'obéissance que je leur devais, naturellement, étaient les seules conditions nécessaires à notre relation. Pour le reste, il fallait apprendre le silence, taire ses sentiments, ses espoirs, ses projets. Est-ce pour leur donner forme et consistance, pour les faire naître à ma conscience, que j'entreprends ce soir d'en dresser le portrait, de raconter leur dramatique fin de vie ? Dans laquelle, je la pressens, tient tout l'essence de leur existence. Ou est-ce simplement pour fixer les mots que je n'ai pas su leur dire ? Ni l'un ni l'autre n'acceptent plus les limites auxquelles l'âge les contraint. Ils s'obstinent. Ils n'ont jamais appris à lâcher prise. Mon père se déshumanise, se dépouille de ses capacités affectives. Seule son idée fixe le retient. Attelé à la réalité de sa situation. « Je suis bien assez vieux pour faire un mort », se contente-t-il de répéter, satisfait de l'effet produit par sa formule. Il ne doute pas de sa décision. Ce qui lui reste de volonté et d'espoir, c'est concentré vers cet unique objectif. Quitter ce monde avec sa femme allongée à ses côtés, main dans la main. Mais cette ultime tension ne s'exerce pas sans tyrannie sur ma mère. Est-elle réellement prête? Elle veut partir, c'est certain. Elle souffre atrocement. Elle ne supporte plus son corps, ses difformités. Surtout, elle craint de perdre la raison et de ne plus pouvoir disposer librement de son sort. Mon père attend la mort de toutes ses forces. Ma mère s'accroche à la vie de toutes les siennes. Effrayée pourtant à l'idée de survivre à l'homme qui l'a fidèlement soutenue depuis tant et tant d'années. Ne pas être celui des deux qui reste. Les tensions générées par un tel dilemme ont dû être atroces. Je les imagine à leur paroxysme ce soir, alors qu'elle franchit le seuil de sa mort comme un condamné qui aurait décidé lui-même de son châtiment. Ce père, taiseux, va essayer d'expliquer à son fils les raisons de son choix. Je ne veux pas la laisser derrière moi. J'aurais trop peur pour elle. Elle ne pourra se débrouiller seule. Le fils est tourmenté par les doutes. Pour lui, son père et sa mère ne sont pas en phase.
J'essaie de le raisonner, de lui faire voir que, dans sa situation, il ne peut déjà plus l'aider et qu'elle se débrouille tout de même, en vain. Ma mère n'est liée à la mort que par volonté et promesse. Instinctivement, elle s'accroche à la vie. Elle n'est pas prête, je le crains. Alors que mon père a si parfaitement intégré l'idée de sa mort que, d'une certaine manière, il n'est déjà plus de ce monde. Dans leur volonté pathétique de se rejoindre au bout de leur vie, de partir main dans la main envers et contre tout, quelque chose les sépare cruellement, inexorablement. On ne leur a certes jamais appris à être heureux. Ils ne font pas partie de ces privilégiés pour qui le bonheur semble venir aussi naturellement que la respiration. Mais ils s'autorisaient à exprimer leurs enthousiasmes. Elle n'a pas tout à fait à renoncer. Lui, si. Comment pourrais-je les juger dans l'extrême solitude de leur décision ou de leur résignation? Tout au long de cette nuit, la dernière, le fils se pose et se repose les mêmes questions. Fait un retour dans son enfance pour essayer de comprendre ses parents, tenter d'expliquer leur choix à l'un et à l'autre.
Il est minuit. Le dernier jour commence. Le plus curieux, c'est qu'ils ne passeront pas leur ultime nuit dans le même lit comme ils l'ont toujours fait durant 59 ans de mariage. Ce couple inséparable, exemplaire, d'une fidélité à toute épreuve, fera volontairement chambre à part pour la première fois, et donc pour la dernière fois de sa longue existence. Il est à l'étage. Elle va dormir dans le salon, dans le lit que je lui ai aménagé depuis que les escaliers sont devenus un obstacle dangereux. Posés l'un à côté de l'autre dans un même espace, ils évoluent pourtant chacun dans leur monde comme s'ils s'évitaient soigneusement. N'ont-ils plus rien à se dire puisque tout est dit? Ou simplement paralysés par l'échéance qu'ils ont eux-mêmes programmée? Comment se dire adieu lorsqu'on part ensemble la main dans la main? Je préfère penser qu'ils se sont fixés le rendez-vous décisif, demain, à 14h, comme s'ils s'étaient donné leur premier rendez-vous d'amoureux 60 ans plus tôt. Leur décision d'anticiper librement le moment de leur mort est surprenante. Elle tranchit radicalement avec l'image que je m'étais faite de leur lecture du monde. Elle souligne surtout leur affranchissement aux influences qui les tenaient prisonniers. Ma conviction d'avoir raison en toutes circonstances, alimentée par l'idée d'être ajustée à mon époque, les a maintenus dans une dimension qui ne leur correspondait plus. Par ce sentiment implicite qu'ils étaient solides, volontaires, immortels, je ne les ai pas regardés vivre et évoluer. Au fond, je ne peux m'empêcher d'admirer leur résolution, d'avoir le courage de s'arrêter là, de s'arracher au temps qui déforme les corps, de ne pas s'infliger ou d'infliger aux autres la vision humiliante de son destin.
Les heures passent, à peine plus de 8 heures avant l'instant fatal. Il ne faut pas trop demander à l'existence, disait mon père. dans une de ses rares sentences philosophiques qu'il estimait issue de l'expérience, non des livres, et donc à ce titre incontestable. Ainsi donc, se lève le jour de leur mort. Je suis étonnée qu'ils ne diffèrent des autres par des signes concrets. Je suis calme, je n'éprouve aucune souffrance, mais je sens l'émotion poindre avec l'aube naissante et cette sensation de tenir une pioche et d'avoir creusé toute la nuit jusqu'à mes racines à la recherche d'une explication perdue. Par instants, fugitif pourtant, comme un haut-le-cœur, un malaise, une sorte d'inconfort difficile à décrire qui doit ressembler aux prémices du deuil annoncé. Par moments, un quart de seconde pendant lequel la réflexion est en retard, l'idée de leur mort s'absente de ma pensée. Chaque jour de réalité est brutal.
Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend.
Les réactions de sa mère sont, pour lui, douloureuses et il s'attarde avec elle. De nouveau, lentement, posément, je lui explique la situation. À son regard apeuré, je comprends qu'elle revient brutalement à la réalité. Alors, elle a eu ces mots terribles qui m'ont pétrifiée. Je n'arrive plus à croire que je ne vais plus jamais parler. Ce qui m'effraie, c'est la perspective de rester morte aussi longtemps. Je ne trouvais ni les mots, ni les gestes adéquats pour la calmer. Le dépit que j'en ressentais m'empêchait à mon tour d'être disponible à sa souffrance. Bien que posés l'un à côté de l'autre, nous étions tous deux confinés dans notre espace propre, comme dans une bulle hermétique.
Après des moments de silence, d'angoisse, mère et fils se retrouvent avant le moment ultime.
Je me suis assis au bord du lit, à côté d'elle, et je l'ai embrassée. Vraiment embrassée. Embrassée, non pas mécaniquement, mais avec toute la tendresse et l'affection que je lui vouais, et qui, depuis des décennies, restait fermement accrochée en moi, muette, obstinée, refusant de s'exprimer malgré mes efforts, ma volonté, mes résolutions. Ce fut insuffisant. Que je n'aurais jamais assez d'elle en moi pour aller jusqu'au bout du chemin. Pas assez de sa beauté, de sa douceur, de ses mains, de ses gestes, pour unir l'enfant que j'ai été à l'adulte que je suis devenue. À cet instant, j'ai confondu sa mort et la mienne dans les larmes. Maintenant, elle a parfaitement intégré l'idée de sa mort comme j'ai parfaitement intégré l'idée de son départ. Son visage s'est adouci. Elle semble sereine. Oui, j'ai eu peur. Tu sais, ce n'est pas mourir que je veux. C'est ne plus souffrir. Et je sens bien que mes souffrances ne finiront pas sans moi. Mais je suis contente de partir avec ton père. Seule, j'aurais vraiment peur.
Arrive l'heure prévue. Tous les trois, nous étions prêts. Mais aucun d'entre nous ne se rendait vraiment compte de ce qu'il attendait. Il laissait ces minutes s'écouler vainement, comme s'ils avaient encore l'éternité devant eux. Et moi, je les croyais toujours immortels. Je croyais toujours avoir le temps et l'assurance que ces ultimes instants allaient m'apporter cette communion qu'une vie entière m'avait refusée. Et lorsqu'on a frappé à l'heure prévue, c'est une phrase de Claudel qui m'a traversé l'esprit comme une flèche. L'âme des morts, comme une respiration, pénètre notre cœur. Il y a eu ce bref moment d'affolement causée par la certitude que le point de non-retour est franchi. À partir de là, tout s'est enchaîné avec une rapidité irrespectueuse d'un deuil déjà actualisé. Une fois allongée, ma mère a eu cette ultime requête avant de se taire définitivement. « Bougez-moi encore un peu sur le côté, je ne vois pas bien mon mari. Avant de fermer les yeux, je veux voir mon mari. » Alors, mon père lui a pris la main avec la ferme résolution de ne plus la lâcher. Cette fois, elle était à l'heure. Il ne raterait pas le départ. Ils se regardaient en coin, complices de cette mise en scène, maîtres de leur vie. Lui, avec son air rusé, ses petits yeux bleus soudain illuminés. Elle encore un peu crispée, mais rassérénée, apaisée au fond. Ils se sont regardés de longues secondes, seuls au monde, avec une expression où se mêlaient la satisfaction et le soulagement d'arriver ensemble au bout du chemin, sans s'être jamais perdu de vue un instant. J'ai songé qu'il devait exister un mot, une formule, pour exprimer cette confiance avec laquelle deux êtres allaient se donner non la mort, mais cette paix, cette quiétude et cet amour qui tenaient dans le seul réconfort d'une main. Elle est morte la première, comme elle l'avait toujours souhaité, par cette crainte irrépressible de lui survivre. Il est mort, quelques minutes plus tard, comme il l'avait toujours espéré, par cette même crainte de le laisser au bord du chemin. Tous les deux s'en sont allés, les yeux fermés et le cœur grand ouvert, exactement comme il l'avait planifié. Il m'a soudain semblé que ces deux longues vies n'avaient été qu'une seule petite lueur qui aurait scintillé brièvement entre deux grandes obscurités. C'est fini, me voilà seule.
Nous arrêtons la lecture de ce livre sur un hymne à l'amour et au couple. Vous pourrez le reprendre et le terminer pour connaître les dernières démarches du fils, ses interrogations, ses angoisses, ses souffrances, son cheminement intérieur, avant de retrouver le chemin de la vie.
Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. Traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Denise, Annie ont lu ces extraits du roman accompagnés par la chanson Les Vieux interprétée par Jacques Brel. À la technique, Vincent et Claude Michel, que nous remercions pour leur disponibilité. Nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour la lecture de Tout s'est bien passé d'Emmanuel Bernheim.
Assez de livres pour prolonger votre réflexion, vous pouvez en ajouter d'autres très beaux. La dernière leçon de Noël Châtelet, paru en 2003 et qui a obtenu le prix Renaudot des lycéens. Une seule phrase pour le résumer. Les jours passaient et j'apprenais que la mort est vivante. En souvenir d'André, de Martin Winkler, ce docteur humaniste, paru aux éditions POL.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 et la page d'accueil d'Impromptu littéraire. Vous nous y retrouverez.